Ok, nous sommes toujours, samedi après-midi, nous sommes toujours aux Utopiales. Et nous sommes avec Romaric Briand.
Bonjour.
Romaric, qui es-tu ? Je ne te connais pas.
Je suis animateur du podcast hebdomadaire de La Cellule, auteur de Sens, un jeu de rôle traditionnel avec un MJ très vilain. Auteur d'un jeu de société qui s'appelle Le Val, un jeu de cartes avec des cartes traditionnelles. Je suis également auteur de quelques articles sur Internet comme celui du Maelstrom, par exemple, qu'on peut trouver via ma boutique. Enfin, un recueil d'articles en fait, que j'avais publié sur Internet à l'origine. Voilà, un peu pour me présenter rapidement. Donc, je fais de la théorie, je fais des jeux, je prends des positions parfois contestables, et voilà, et je m'amuse beaucoup, ça c'est sûr.
Formidable. Qu'est-ce que tu es venu faire aux Utopiales cette année ?
Je suis venu m'amuser. Et pour ça, c'est très simple. Je suis venu parler sur diverses tables rondes, notamment de certaines des positions que je peux avoir. Alors, on a eu une table ronde à un moment donné sur le MJ. Donc, on a parlé du fait que le meneur de jeu traditionnel, on va dire, voit progressivement dans les jeux de rôle contemporains son rôle réparti entre différents acteurs autour de la table, que l'autorité... On a toujours partagé l'autorité, mais que dans le jeu de rôle classique, on en avait peut-être donné un peu beaucoup au maître de jeu, et que c'est en train d'exploser, et que c'est très intéressant, parce que ça donne lieu à tout un tas de nouveaux systèmes. On a fait une table ronde également sur les rapports entre joueurs au cours d'une partie, avec notamment Eugénie, qui entretient le blog « Je ne suis pas MJ, mais », qui est un blog très intéressant, qui prend la position que le joueur doit s'exercer en fait, pour devenir un bon joueur. Ça, c'est intéressant, parce qu'on entend souvent des articles pour dire comment devenir un bon MJ, mais on lit assez peu souvent des articles pour devenir un bon joueur. Ça vient, Sébastien, je sais. Mais voilà, c'est, en tout cas, je trouve que c'est une démarche intéressante. Donc, on a fait une table ronde avec elle et Manu, et ben, voilà. Manuel Bedouet et Emmanuel Meffray, et puis pour parler des rapports entre les joueurs, donc ça veut dire les rapports entre les meneurs et leurs joueurs, etc. Enfin, c'était assez intéressant avec des oppositions intéressantes.
Et avec monsieur Didier Guéserix.
Et bien sûr, on avait la chance d'être avec Didier, de communiquer via chapeau, il avait son chapeau également, ça c'est très important.
Très important les chapeaux.
Et donc c'était génial aussi d'avoir cette espèce d'aperçu, il y avait 5 personnes d'horizons très différents. Et ça, c'était vraiment, vraiment super intéressant. On a parlé aussi de la team de PJ, qui est l'espèce de structure archétypale en fait, du jeu de rôle tradi. C'était vraiment sympa. Donc voilà, je viens ici aussi pour faire quelques interviews, parler aussi de certaines de mes positions. Je suis beaucoup invité pour parler en ce moment, parce que y a une espèce de tectonique des plaques. Moi, je change beaucoup d'avis comme de chemise, parce que quand je rencontre des gens intéressants qui me font changer d'avis, ça me donne envie de parler et de dire « Oh, regardez, mon avis a changé, je pense ça ». Et là, notamment en ce moment, au niveau de l'édition, au niveau de plein de choses, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer dans ma tête, donc j'avais aussi envie de répondre à quelques interviews et de parler, prendre la parole pour éviter qu'on me caricature tout simplement, et voilà. Ça fait partie de mes buts aussi dans ces utopias, j'avoue.
Parlons un peu de ça, justement.
Ah oui, parlons de ça.
Tu nous parlais de jeu il y a un instant, et ouais. Le fait que pour toi, j'ai l'impression, jusqu'à la polémique, mais d'abord ta présence en convention et ton rapport avec le public jeu de rôle,
ouais,
est déjà très ludique.
Oui, oui, tout
à fait. Alors j'ai envie de te poser la question, à quoi tu joues exactement ?
Alors, moi en fait... Je cherche en fait maintenant, mais c'était pas le cas avant, à travers mes interventions, avant tout, à divertir pour faire réfléchir. Moi, j'aime bien me comparer à un espèce de troubadour, à un espèce de saltimbanque qui va faire du troll ou une blague, mais dont le but est de faire avancer la réflexion malgré tout. Entrecouper en fait des réflexions très théoriques et très conceptuelles avec des blagues, avec de l'humour, de façon à finalement faire de façon inconsciente les gens, les faire, on va dire, rire et en même temps réfléchir. Et si on prend Sens, par exemple, qui est mon jeu, on va dire, le jeu qui me représente le plus, c'est un jeu dans lequel on joue, on se divertit, on vit une aventure, mais en même temps, à travers l'aventure qu'on est en train de vivre, on se pose des questions, etc. Et bah, tu vois, à quoi je joue ? Et bah, je joue à Sens, en fait. Et je n'ai jamais cessé de jouer à Sens.
Alors, tu parles de faire rire et de divertir. J'ajoute très volontiers la part de provocation.
D'énerver.
Ouais, par exemple.
D'irriter.
C'est très marrant parce que malheureusement, il y a peu, il y a un grand auteur de SF qui a disparu, qui s'appelle Heyerdahl.
Bah, c'était très récent.
Il y a très,
ça,
très peu.
Très, très récent. Voilà.
Genre, il y a quelques heures, quoi.
Quelques jours.
Quelques jours. Hein.
36 heures, à peu près.
Et ça, bon, moi, ça m'a beaucoup touché, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et dans dans le premier roman que j'ai lu de lui, qui doit être peut-être le premier qu'il a publié, qui s'appelle « Ilvin, rêve de vie », de son cycle « La bohème est livrée », il décrit des personnages qu'il appelle les bohèmes alcans, ou alcanes, je ne sais pas comment il le prononçait. Et c'est un mouvement qui utilise la facétie pédagogique. Et ça me fait énormément penser à ce que tu viens de mentionner, Romaric.
En fait, c'est vrai que moi, avant tout, je suis un philosophe, en fait. Malgré tout, ma formation, c'est la philosophie. Je ne sais pas quelle est la vôtre, d'ailleurs, Julien et Sébastien. Moi, voilà, ma formation, c'est la philo. Et mon but, c'était quand même d'en faire mon métier. Et c'est vrai que beaucoup de mes positions, parfois provocatrices, elles servent, et souvent notamment à la cellule, elles servent aussi beaucoup à faire avancer le débat, à faire naître des réflexions, à pousser les gens dans leur dernier retranchement. Mais toujours, j'essaye après, lorsque les choses sont mal, de toujours prendre du recul et dire, bah voilà, là, t'as voulu dire ça, t'as essayé de dire ça, etc. Parfois avec plus ou moins de bonheur. Hein, je sais qu'avec Sébastien, notamment, quand j'essaye de lui faire dire des trucs, il me dit souvent que je déforme les propos. C'est vrai, ça m'arrive, notamment sur les forums, on en avait discuté ensemble.
Ouais, effectivement.
Et voilà, ça m'arrive de me rater, mais j'essaye toujours quand même d'avoir ce retour théorique, tu vois, de dire, bon, allez, on s'est bien amusé, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit concrètement? Et puis, on prend du recul, puis on voit les concepts qui peuvent en sortir. Donc c'est vrai, ouais, moi c'est vraiment, s'il fallait me... C'est ça, faire de la philosophie en s'amusant, ça me définit vraiment.
Super, bah écoute, je trouve que c'est un... Ce que tu dis là, ça me paraît important, puisque ça permet de clarifier un peu ta position. C'est-à-dire que quand on t'entend pour la première fois la plupart du temps, et je te l'ai déjà dit, on entend surtout la provocation, on entend surtout l'attaque, et on entend presque...
Alors
je finis juste.
Ouais,
on entend presque une forme de mépris de temps en temps, qui est très gênante.
Ah, ça c'est triste.
Ouais. Et c'est très triste parce que. Mais en discuté avec toi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas.
Non, mais je comprends par contre. Enfin, c'est de ma faute. Enfin, j'admets volontiers que c'est de ma faute.
Attention, je suis pas là pour faire le procès dans un brillant.
Non, mais moi ça me dérange pas de dire que j'ai tort et que je me trompe parfois. Et parfois, notamment, je prends par exemple certaines visions que j'ai pu développer au départ sur la cellule. Notamment contre les éditeurs, mon idée c'était d'essayer de créer un esprit de corps, mais j'en parle aussi dans les podcasts de tout ça,
bien sûr.
De corps, c'est-à-dire de créer une espèce de fédération des auteurs indépendants contre un espèce de méchant un peu caricatural. D'ailleurs j'avais fait un podcast qui s'appelait Les éditeurs sont-ils méchants, un espèce de méchant caricatural qui serait les éditeurs. Et l'idée en fait c'était de créer un univers, tu vois, enfin, vous voyez Groland,
oui,
quelque part, c'est un univers satirique, mais dont le but est quand même d'apporter des... Ben moi, j'avais un peu cet esprit-là dans la tête. On va faire un espèce d'espace où les trolls s'ébattent gaiement, qui soit à la fois amusant, qu'on sente un peu la caricature, etc. Le problème, c'est que parfois, ben, à force de caricaturer, on finit par dire sérieusement ce qui en fait n'est qu'une caricature, en fait. Mais ça, on peut le savoir qu'après, quand on vieillit, quand on rencontre des éditeurs vraiment, qu'on discute avec eux, qu'on s'aperçoit qu'il y a des situations qui sont pas vraiment aussi caricaturales qu'on le pensait, que tout est flou, en fait. Mais ça, évidemment, c'était évident, tu vois.
En tout cas, fluide.
Fluide, voilà, c'est ça. Mais ça, c'était, tu vois, pour moi, c'est évident, en fait, que c'est comme ça. Mais à un moment donné, je trouve que dans la diffusion, dans la communication, on a besoin aussi de créer des grands totems et des grandes idoles, et de les faire à coups de marteau, de les détruire. Et moi, ça me semble important. Et donc, voilà. Et je te dis ça de façon authentique, naturelle. Enfin, naturellement, j'ai pu devenir moi-même ma propre caricature. Tu vois ce que je veux dire, Julien?
Oui, bien sûr.
C'est probable.
Voilà. Oui. Sébastien, avec le sourire, genre, c'est probable. Ah oui. Genre, je te le dis, c'est sûr.
Écoute, hein, on t'a appelé le BHL du jeu de rôle.
On m'a appelé le Michael Vendetta du GR, mais ça, j'en ai rien à foutre.
On en avait trouvé une que j'ai oubliée tout à l'heure, qui était pas mal aussi.
J'en ai rien à foutre de ça. Et puis voilà.
C'est bien que tu dis ça aussi, que t'en as rien à foutre, parce que c'est pas l'objectif. Tu t'es créé un personnage médiatique.
À un moment donné, ça m'a fait souffrir.
Oui, j'imagine.
J'en suis là aujourd'hui, mais il y a un moment donné où j'en ai souffert. Puis à un moment donné, j'ai compris aussi que c'était normal, vu ma position et vu ce que je voulais faire. C'était normal de solliciter de telles réactions épidermiques. Et voilà, je veux dire, c'est en fait pour être beau joueur. Tu vois, quand on dit des choses de façon parfois violente, virulente, parce qu'on aime la passion, on aime être passionné, eh ben il faut accepter aussi de prendre sur soi les réactions passionnées des adversaires, des opposants, qui vont être adversaires sur ce point-là, mais qui vont être parfaitement des alliés ou des compléments sur d'autres points. Donc moi, ça ne me dérange pas, ça.
Justement, On a pas mal parlé de la provocation, tu as parlé des totems. Est-ce qu'au moment où tu as commencé cette démarche-là, tu considérais que finalement le milieu holistique manquait de polémique ou simplement que ce n'était pas les bonnes?
Alors, je pense. Alors, c'est excellent ce que tu dis, Sébastien. C'est exactement ça. Je pensais les deux. C'est-à-dire que je pensais que le jeu de rôle manquait de polémique et que les quelques polémiques qu'il avait n'étaient pas les bonnes. Et ça, c'est génial. C'est exactement ça. Et donc, moi, mon but, c'était de créer effectivement, des espèces de grandes polémiques qui permettent à chacun de s'exprimer et dire « Mais non, le rôle d'un éditeur, c'est pas ça. » Et aujourd'hui, je suis super content d'entendre des éditeurs comme Sans Détour rappeler le rôle réel d'un éditeur, etc., se décaricaturer vis-à-vis de la cellule et inversement, la cellule, rappeler quelle peut être les différentes fonctions de l'éditeur et se décaricaturer. Et on voit que à travers cet énorme shitstorm, cette espèce de maelstrom qui s'est formé en autour de la cellule, eh bien, on voit que finalement, on commence à avoir des positions claires et des amitiés qui se créent, etc. Et ça, moi, c'est exactement ce que je voulais. C'est génial.
Au passage,
t'exprimes mieux que moi ce que je veux dire.
Est-ce que cette ouverture actuelle de ta démarche, de ton attitude, notamment? Est-ce que tu penses que ça pourrait aller jusqu'à la collaboration en dehors de la cellule? Est-ce que ça t'intéresserait, par exemple, de travailler avec d'autres gens à d'autres choses pour découvrir comment font les autres?
Alors, oui, évidemment, et déjà, c'est ce que je fais. De fait, je le fais déjà avec les autres. Le problème, après, c'est une question de temps, une question d'affinité, une question de distance. Il y a des gens avec qui j'aimerais travailler, mais qui sont très loin. Après c'est toujours les contraintes techniques. Moi je travaille avec tout le monde, Sébastien. D'ailleurs même les gens que a priori je n'aimais pas. Par exemple, les gens m'ont souvent dit tu n'aimes pas Johan Sipion, tu n'aimes pas le 7e cercle, tu n'aimes pas etc. C'est faux. J'aime tous ces gens. Par contre il m'arrive de critiquer leur jeu, mais les gens je les aime. Et ça c'est très important. Premier point. Deuxième point, ça m'arrive très souvent de leur tendre le micro, de leur dire mais prends la... Moi, je donne le micro. J'avais donné le micro à Florent Eneko pour qu'ils répondent, par exemple, à Akuro. Ils ont refusé parce qu'ils considéraient qu'à ce moment-là, j'étais trop vindicatif et que du coup, c'était...
Puis parce qu'ils avaient, en tout cas pour Johan, déjà eu une assez mauvaise expérience.
Voilà, d'accord. Ah bon, ils avaient une expérience avec moi?
C'est-à-dire que je pense que la manière dont Sombre a été présenté dans la cellule.
Johan, ah oui, d'accord. Johan,
j'ai tendance à prononcer Johan. Mais...
Johan, d'accord, ok. Ouais. Oui, excuse-moi, vas-y.
C'était juste pour répondre à ça. Justement, si tu vas vers la collaboration, est-ce que tu penses que tu aurais, toi, des choses particulières à apporter à d'autres modes éditoriaux, à d'autres auteurs éventuellement, et inversement, des choses que tu souhaiterais apprendre auprès d'autres?
Ben moi, je souhaite apprendre tout auprès de tout le monde. Enfin, je sais, j'ai que
par
des
un truc précis.
C'est compliqué. En fait, moi, je me vois maintenant comme quelqu'un qui commence à avoir une certaine expérience de ce que c'est que d'être un auteur indépendant, avec toutes les difficultés que ça implique. Donc, moi, je me vois bien comme une espèce de conseil pour les auteurs indépendants qui voudraient débuter. Tu vois, un petit jeune qui arrive, qui dit « Moi, j'aimerais bien faire un JDR. Je pense que le meilleur modèle économique, c'est l'indépendance. Est-ce que tu pourrais me filer un coup de main ?» Et d'ailleurs, à la cellule, c'est ce qu'on fait. On met en valeur des playtests, des petits jeunes qui arrivent avec des playtests, qui nous font tester des jeux, etc.
Alors, justement, est-ce qu'il est possible de...
Par contre, Sébastien, juste pour répondre à ta question jusqu'au bout.
Vas-y.
Moi, j'ai pas envie de travailler... J'ai envie de travailler avec des jeunes, avec des gens qui arrivent dans le milieu. Parce que j'estime que des gens, par exemple, on va prendre des gens comme Jérôme Larré, comme John Doe, j'allais dire LG, c'est des gens qui n'ont pas besoin de moi, tu vois, ils ont leur propre expérience, ils apporteraient d'autres conseils, d'autres orientations. Ben moi, LG, j'ai rien à lui apprendre. Et, il a tout,
et toi, est-ce que tu aurais des choses à apprendre d'eux?
Ah bah évidemment. D'ailleurs, LG, j'adore l'inviter dans les podcasts de la cellule, discuter avec lui, etc. Jérôme, nos relations sont plus complexes parce qu'on est des gens qui... on se comprend pas, on sait pas. Et des fois, on discute pendant très longtemps et puis j'essaye de reformuler sa pensée et puis il me dit... Non, c'est pas ça. Alors, on échoue parfois. Et donc, du coup, comme ça fait très longtemps qu'on discute ensemble via Skype, via des conversations téléphoniques interminables avec Jérôme, et que parfois, on n'arrive pas à se comprendre, eh bien, je pense qu'il y a de la lassitude de part et d'autre. C'est-à-dire, il y a un moment donné, Jérôme, il fait « Bon, je le laisse faire son truc dans son coin. Je comprends pas tout ce qu'il dit. Il me fait chier un peu. »
Soyons.
Moi, de mon côté, je me dis « Bon, bah, je comprends pas toujours. » Donc, voilà. Mais il y a un respect mutuel.
Soyons un peu pratiques, Romaric. Par exemple, là, en ce moment, tu travailles sur la rédaction, le test de Sens Cosmo, je crois.
Ouais.
De quoi est-ce que tu aurais besoin pour avancer mieux ou plus vite dans un jeu comme celui-ci?
De rien.
De rien, tu t'en sors tout seul, il n'y a aucun problème.
De rien du tout, j'ai des super relecteurs.
Ouais.
J'ai une dizaine de relecteurs qui sont tous géniaux, dont certains qui connaissent très bien l'univers, d'autres qui ne le connaissent pas, des relecteurs orthographiques, etc. A priori, là, tu vois, tu me poses la question, je dis de rien, vraiment. J'ai besoin de rien, j'ai juste besoin de temps. Parce que là, bah voilà, j'ai un enfant en bas âge, donc forcément, j'ai assez peu de temps pour travailler. J'ai juste besoin de temps, en fait.
Ok.
Et voilà.
Et qu'est-ce qui peut te faire gagner du temps? C'est une question que tu pourrais te poser aussi.
Il faudrait, en fait, qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du temps? Ben, il faudrait quelqu'un pour garder Soren l'après-midi. Il faudrait.
Ouais.
Non, mais c'est très technique.
Je suis pas sûr que ce soit une raison que les éditeurs ou que les auteurs de jeux de rôle puissent apporter, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Par contre, si la question c'est est-ce que tu penses qu'il y a des gens. Là, je pense pour Sens, clairement non. Pour Vadémécom, je fais appel, tu vois, par exemple, LG a testé le jeu.
Attends, juste un truc.
Sébastien, si tu veux y aller, je peux continuer avec Romaric, juste le temps de lui poser tes questions.
Ouais. Sinon, tu poses tes questions et puis je réponds à Julien après.
Je vais finir sur une question.
Ouais.
Alors, vas-y vite, ouais. Je
fais et donc, finalement, c'est vers ça que j'allais avec mes questions précédentes. Est-ce que tu as l'intention de travailler en dehors de la cellule? Et notamment de changer un peu d'horizon. Parce que je comprends qu'il y ait non seulement une facilité et des intérêts communs à travailler toujours avec le même groupe de personnes.
Non, mais la cellule, c'est un groupe mouvant, en fait.
Ouais, les ateliers imaginaires aussi.
C'est un groupe mouvant, mais par exemple, vous avez une certaine orientation en termes de choix de jeu.
Ouais, d'accord, ouais.
Et
je
ne pense pas que... quelqu'un qui aurait envie de faire, je sais rien, la prochaine édition de Bloodlust par exemple, et spécialement intérêt à vous la proposer à vous.
Ah bah alors là au contraire, hein. Je pense qu'on a plein de choses à apporter à l'univers de Bloodlust. Justement, par rapport, alors là je peux te parler du rapport de l'épée à son porteur, je peux te parler de l'univers. Mais si, je pense que si, il y aurait un Bloodlust à faire, mais ce que tu veux dire, ce serait peut-être un. Enfin moi, déjà, la cellule n'est pas un éditeur.
Non,
la cellule apporte des conseils éditoriaux de temps en temps et en fonction des invités qui sont là. Donc la cellule, c'est un truc pour vieille forme. Par contre, ce qui est clair, c'est que la cellule, je n'invite à la cellule que des gens que j'aime, qui sont mes amis ou en tout cas avec qui j'ai des acquaintances, des amitiés, des affinités, tu vois. Des gens avec qui je m'entends bien, tu vois, avec qui ça va pas partir en couille, voilà. Donc ça c'est clair. Mais par contre, d'horizons très divers, oui, bien sûr. Tu trouves pas, Sébastien?
Non,
je pense que c'est très orienté, la cellule.
Non seulement très orienté, et très uniforme, finalement. Eh, je sais que le terme...
Non, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas, si tu veux. Mais moi, je pense que tu... Enfin, tu vois, tu dis ça parce que tu as un ensemble de podcasts en tête, hein, tu vois.
Non, pas seulement. Je pense à un ensemble de jeux, en fait, surtout.
Oui, donc
je
c'est pas
une orientation de création de jeux.
Ah, là, tu
beaucoup.
Parles des ateliers imaginaires.
Oui, c'est vrai. Oui, on parlait plutôt des ateliers.
Parce qu'il y a une différence. Il y a vraiment une distinction. Parce que la cellule, c'est mon bébé. Les ateliers imaginaires, c'est le bébé de Fred, de Fabien et de moi.
Non, t'as raison.
C'est différent déjà.
Je mélange galeux. Donc, clairement, les ateliers imaginaires.
Ouais.
Et qui a effectivement une orientation en termes de jeux de rôle.
Moi, je vois pas trop laquelle, en fait. Je trouve qu'il y a entre Perdu sous la pluie et Sens, il y a. Enfin, Sens, c'est du mainstream. Hein. C'est un jeu de rôle classique à papa, avec un système très flou, où le MJ est quand même maître de beaucoup de choses. Et tiens, d'ailleurs, très amusant, Sébastien, à noter que souvent on me prend pour le porte-parole des jeux anarchiques dans lesquels il n'y a pas de meneur de jeu, etc. Dans les faits, mes jeux, ils sont tout sauf ça. Ce qui est marrant, c'est assez. Donc, si tu vois, pour te dire qu'il y a quand même des différences. Et je pense que les ateliers imaginaires sont encore à leur enfance. Tu vois, il y a peut-être encore plein d'autres jeux qui vont arriver. Non, on est assez ouvert. Mais on est assez ouvert. Il faut que, alors, pour rentrer sur les ateliers, il faut que les jeux et l'auteur des jeux soient des gens que Fred, Fabien et moi nous apprécions. Donc, tu vois, on part toujours du lien affectif. En général, si on apprécie les gens et les jeux... Enfin, si on apprécie les gens, c'est parce qu'on apprécie les jeux, tu vois. Enfin, à peu de choses près, quoi. C'est très flou, encore. Hein. Mais donc, il y a possibilité de... Moi, je trouve pas que ce soit orienté, en fait.
Pour mettre un peu les pieds dans le plat et aller vers ce que Sébastien veut dire, je suis pas sûr, donc je vais peut-être parler à sa place, mais...
Ah, c'est nul, Sébastien,
d'en aller, je suis triste. Est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à bosser avec un éditeur comme Sans Détour, avec un éditeur comme le 7ème Cercle, j'en sais rien,
moi,
par exemple.
À titre personnel
Oui, toi, à titre personnel, pas les ateliers,
j'ai pas
toi.
Le temps. J'aimerais bien faire un gros pro... Alors, à titre personnel, j'aimerais bien un jour faire un gros produit pour le jeu de rôle. Tu vois, ouais. une boîte, une super machine et tout, pour faire qu'il y ait de plus en plus de rôlistes et tout ça.
Ouais.
Je n'ai pas le temps parce que j'ai envie de faire mes œuvres, en fait.
D'accord.
J'ai d'abord envie de faire mes œuvres. Peut-être qu'après, quand j'aurai plus d'idées personnelles à chier sur le papier, quand j'aurai plus mon sens à terminer, mon travail, peut-être qu'un jour, ouais, je... A plus, Sébastien. C'est dommage que tu t'en ailles. Putain, j'aurais bien voulu continuer à discuter avec Seb. Donc, c'est... peut-être un jour, je... Ouais, peut-être qu'un jour, je... Alors là, il faut jamais dire jamais.
Oui, bien sûr, oui,
absolument. Comment est-ce que je pourrais dire « Non, jamais je travaillerai avec un éditeur ». Par exemple, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Sébastien Cellerin.
Oui,
qui
je l'ai pas cité.
Qui est un putain d'ami, tu vois. Enfin, ouais. Sébastien Cellerin, pour moi, c'est plus qu'un éditeur, c'est un ami, Sébastien. On partage des tas de points. Et à bien des égards, la cellule, on est les enfants du soleil, Children of the Sun, c'est ce que je dis souvent pour illustrer le Val. On est les enfants de Multisim. À bien des égards, on a des pensées autour, notamment autour de l'alchimie, autour de ce que ça veut dire éveiller les gens, autour de tout ça, autour de l'authenticité. Néphilim, Agone, c'est des jeux qui nous hantent, qui nous habitent, tu vois. Bon, et donc, si un jour Sébastien il décide de faire un produit, une réédition d'Agone,
oui.
Ah, tiens, et qu'il me propose d'en faire partie, tu crois que je vais dire non?
Ah bah
non, mais sans déconner, Sébastien, demain il me propose de faire une réédition d'Agone, il me dit vas-y, on fait un Agone avec toi, Romaric et tout, tu vas nous aider et tout ça. Non, mais je pense que ouais, je vais filer un coup de main, ouais. Non, mais carrément.
Oui, mais carrément. Donc, Sébastien Delfino nous a quittés pour aller assister à une des conférences, donc il ne pourra pas répondre.
Mais si j'ai le temps, si j'ai fini mes œuvres.
Si tu as le temps, voilà, si tu as fini tes œuvres. Mais je pense que c'est aussi à là qu'il voulait revenir.
C'est pas ma priorité.
Parce que le problème que pose l'implication totale dans les ateliers imaginaires, dans tes projets, etc., c'est un problème un petit peu d'endogamie. Et pour en avoir discuté avec lui aussi sur d'autres sujets, il y a un truc qui l'agace beaucoup. Alors encore une fois, je parle à sa place, donc pardon Sébastien si je caricature. Mais
de toute façon, il aura l'occasion de s'exprimer dans le podcast d'Altarit pour remettre en place.
Il y aura tout à fait l'occasion.
Mais t'inquiète,
Il me disait, j'en ai marre que Romaric, la cellule, les ateliers imaginaires, etc., développe un point de vue en décrivant le jeu de rôle traditionnel comme une espèce de grosse entité qui a tendance à le confiner dans une espèce de réserve indienne dans laquelle il finira par mourir doucement.
Mais ça, c'est pas vrai.
Eh ben, c'est ce que je veux t'entendre dire.
Non. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que nous, notre position, c'est de dire le jeu de rôle classique traditionnel n'est pas la seule forme de jeu de rôle possible.
Absolument.
On ne dit pas qu'il va mourir gentiment. Par contre, oui, je pense qu'à une horizon... C'est un peu comme... Tu sais, ça me fait penser au débat dans le jeu vidéo entre les hardcore gamers et les casuals.
Oui, bien sûr.
Il y a un moment donné, on a dit, bah oui, le jeu vidéo, c'est aussi le solitaire, c'est aussi le casual gaming. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le casual gaming, c'est un peu, la plus grande part, finalement, du jeu vidéo, et notamment au Japon. Au Japon, maintenant, on ne pratique que le jeu, c'est sur téléphone portable, tu vois. C'est fini, le jeu sur console au Japon, quoi. On joue sur son portable, dans le métro, etc. Donc, c'est un petit peu ça. Mais nous, en fait, notre position, ma position, elle est politique.
Oui.
Si on voulait montrer à un moment donné, à un instant T, dans la cellule, dans les micros de la cellule, si on voulait montrer que le jeu de rôle traditionnel, c'est pas uniquement ça qu'il faut faire, eh ben, il fallait se poser en s'opposant et il fallait essayer de créer des espèces de querelles de chapelle avec un espèce d'ensemble monolithique. D'un côté, il y a le jeu de rôle classique et puis hop, tac. Et honnêtement, j'ai gagné, Julien. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur ce que je raconte, on peut dire tout ce qu'on veut sur la manière dont je m'exprime, que ça pose des problèmes et tout, mais je voulais poser problème. Et j'ai gagné. Maintenant, on se pose la question. Regarde, Julien.
Je t'écoute.
Excuse-moi, je parle tout le temps.
Aucun souci.
À la conférence hier, quand on a demandé aux gens de lever la main, on leur a demandé qui fait du jeu de rôle. Il y avait 100% des personnes ont levé la main, d'accord ? Ensuite, on leur a demandé qui a fait l'expérience de jeu de rôle sans meneur de jeu. Il y a 50% de la salle qui a levé la main. 50% de la salle. Il y a 7 ans, quand je suis arrivé sur le marché, quand je disais qu'un jeu de rôle sans meneur de jeu était possible, à la sortie, il y avait des gens qui m'accueillaient et qui voulaient me taper, qui étaient énervés contre moi, qui me disaient « Non, mais tu peux pas dire ça, tu te rends compte, c'est pas ça le jeu de rôle, t'es en train... »
Alors,
donc, les choses ont évolué.
Oui, bien sûr, les choses ont évolué. C'est en posant le problème que tu permets de toute façon de l'aborder, le problème. C'est en posant des murs que tu permets aux créateurs d'éclater les murs.
Exactement, tout à fait.
Moi, le point de vue que j'ai par rapport à ce conflit-là, c'est que
Mais il n'existe plus ce compi, on n'en a plus besoin. On a gagné, ça y est. Oui, ça y est, Julien.
Votre position. On a gagné. Moi, je vois ça différemment. Je me dis que tous les jeux que vous rendez possibles, que vous illustrez, et pas que vous, hein, il y a des tas d'autres gens qui s'y collent aux États-Unis, même en France, des indépendants qui ne font pas partie des ateliers imaginaires, ouais. Des gens qui ne se définissent même pas comme indépendants. On pourrait parler des Nordiques, par exemple, qui font des expériences extraordinaires. Moi, je vous vois comme un groupe d'expérimentateurs. Le but de l'expérimentateur, c'est d'étendre la théorie, et une fois que la théorie est étendue, on va dire le mainstream, le groupe général peut se la réapproprier. Ouais. Et il y a un exemple qui est extraordinaire pour moi de ce point de vue-là, c'est la dernière édition de Donjons et Dragons. Ouais. Pas plus classique à la base, pas plus mainstream que ce jeu, un des jeux les plus joués. Et dans la dernière, la cinquième, il y a des concepts qui se sont glissés subrepticement.
Mais oui, c'est génial.
Du jeu indépendant.
Mais bien sûr, et voilà. Et CQFD, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Quand je dis que Grumf, par exemple, que LG, c'est un champion. Grumf, il a sa manière de jouer. Il joue classico-classique, avec un meneur de jeu qui est en gros sous le crible de ses joueurs. En gros, les jeux de Grumf, c'est toujours la même chose. C'est des joueurs autour d'une table qui foutent la pression à leur meneur de jeu. Et c'est ce qu'ils kiffent. Enfin, je caricature. Encore une fois, tu vois, t'es en train de dire, tu caricatures. Oui, je caricature, Julien. Mais c'est.
Tu oublies, non, en fait, c'est pas ça. Ce que je veux dire, pour être précis.
Tu vas voir, je vais développer.
Alors, je te laisse parler.
Je vais développer.
Vas-y,
ce que je veux dire par là, c'est qu'il a sa manière de jouer, d'accord. Alors peut-être que je l'ai mal décrit tout à l'heure et je m'en excuse pour LG.
Pas de souci.
Mais en gros, il a sa manière de jouer. Et quand il voit des trucs qui lui plaisent dans l'indépendance, il se dit, tiens, putain, je vais faire les 1000 marches, je vais utiliser dans les 1000 marches des trucs que j'ai trouvés dans tel jeu, etc. Et il combine et il crée, et c'est comme ça qu'on crée de la nouveauté. Et je veux dire, s'il n'y avait pas de couleur clairement définie, s'il n'y avait pas le rouge, s'il n'y avait pas le bleu, il n'y aurait pas de violet, tu vois. C'est presque ça, je fais une ignoble analogie, mais c'est ça. S'il n'y avait pas à un moment donné des gens qui définissaient des couleurs très vives, très précises, mais on n'aurait pas cette dimension colorée. Et moi, je trouvais que dans le jeu de rôle, en tout cas quand j'y suis arrivé, le jeu de rôle était terne, au sens où tout le monde disait la même chose, tout le monde, il y avait une espèce de consensus mou sur ce qu'était le jeu de rôle. Et moi, j'ai voulu y foutre de la couleur, quoi. Qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des chapelles, qu'il y ait des théoriciens, qu'il y ait des théories, qu'on sente que le jeu de rôle est vivant et voilà. Et j'ai réussi, quoi. Et donc, je vais pas rougir.
T'as suffisamment. Non, absolument pas. Rougir. Et puis, t'as suffisamment fait bouger les choses pour que les gens qui pensaient comme toi puissent s'exprimer.
Et je suis content d'être heureux.
Ah, c'est cool. Écoute, de toute façon, pour finir sur cette partie de la discussion, je vais citer un très grand philosophe qui s'appelle Globo.
Ah oui, alors là, quel philosophe.
Quel philosophe.
Ça, je suis d'accord.
Qui n'arrête pas de me répéter.
Anarchiste de droite. Sa femme lui dit ça souvent.
Qui me répète souvent que ce qu'il aime dans les jeux indépendants, c'est pas nécessairement d'y jouer, c'est d'y piquer des choses pour la mettre dans sa pratique traditionnelle.
Tu vois ? Voilà. Mais il faut bien à un moment donné qu'il y ait des think tanks extrémistes. Tu vois, il faut bien qu'il y ait des extrémistes pour pousser jusqu'au bout des logiques. Pour innover des choses, pour qu'ensuite il y ait des gens peut-être plus centristes. Je sais pas comment, c'est un peu horrible de dire ça parce que les rôlistes traditionnels vont se dire putain, ils nous comparent à des centristes, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Enfin bref, tu vois ce que je veux dire.
Des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à aller explorer parce que leur pratique ne se construit pas autour de ça.
Voilà, c'est ça. Et puis tout le monde n'est pas obligé d'être théoricien, tu vois. Tout le monde n'est pas obligé d'être expérimentateur. Tout le monde n'est pas obligé de faire des problématiques de fond de tiroir. Les gens peuvent très bien kiffer de jouer à des jeux tradis. Mais moi, je kiffe de jouer à Cthulhu, putain. Je ne cesse de le dire parce que. Je voudrais pas qu'on dise non mais ce mec est un extrémiste machin truc. Non, je pense comme vous, chers auditeurs, mais c'est juste que j'ai décidé de prendre à un moment donné de prendre des positions extrêmes et de les faire se confronter un peu comme quelqu'un qui joue à la poupée et qui imaginons qu'un tel dit ça, imaginons que l'autre lui réponde ça pour dégager les grands problèmes.
Tu fais du jeu de rôle avec le milieu du jeu de rôle.
Mais qu'est-ce que j'ai tout à l'heure je t'ai dit que je créais du maelstrom.
Ben oui je sais.
Alors je suis cohérent hein, malgré ce qu'on peut dire, mais j'évolue aussi, je change de position, mais toujours ce que je veux par contre c'est toujours être. Comment dire ? C'est difficile, mais d'être toujours honnête, authentique, d'essayer de dire ce que je pense, de penser ce que je dis, de pas pouvoir me regarder et dire « Ah non, là, j'ai déconné, j'ai dit un truc, j'aurais jamais dû lui dire ça », ou tu vois, « J'aurais jamais dû dire ça », etc. J'essaie de vivre sans regret. Bah oui, j'ai pu dire des conneries, mais c'est pas grave, on avance, on progresse, et voilà. Et j'espère que les gens reconnaîtront au moins l'authenticité de ce que je dis. Il y a des gens qui disent on peut nier qu'un travail soit réussi, mais on peut pas nier qu'il ait été authentique, tu vois. Et ça, moi, c'est ce que j'ai envie qu'on dise de moi plus tard. Ce mec était un con, il a pris des positions connes parfois, mais au moins, il l'a pensé sincèrement. Et si j'ai déjà cette démarche-là est claire, alors je serai content.
Nous verrons. De toute façon, je le répète, l'objectif de cette interview, c'est pas du tout de faire un procès, c'est pas du tout de te faire t'expliquer. Mais même si c'est un petit
non,
peu
mais sympa, je mais sens, c'est pas mal. Non, mais je oui, sens je que prie. Les gens ont besoin de ça. Je prends un exemple, oui. Le Café Rôliste que j'avais enregistré avec
Orlante. Oui, très bien d'ailleurs. Très bien.
On sentait les gens, j'avais eu des retours de gens qui disaient « Enfin, je comprends ce que tu veux faire. »
Absolument.
Ouais. « Enfin, je comprends que tu n'es pas la caricature qu'on m'avait décrit de toi. » Et donc, comme je sens cette demande de la part des auditeurs et des internautes, comme je sens que les gens ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la démarche qui est la mienne et qui m'habite, bah, je la livre en fait parce que j'ai l'impression que c'est important que je le fasse. Parce que maintenant, en fait, ce que je constate, c'est qu'au lieu de recevoir des shitstorms et des insultes, maintenant je reçois des gens qui me disent, avec humour, ils me disent « Ah, t'as déconné, c'était bien drôle, j'ai bien ri » ou tu vois, des trucs comme ça. Et là, je dis « Voilà, Banco, t'as tout compris, mec. T'as tout compris. »
Écoute, de toute façon, je pense que même si ce que tu nous dis là va pousser nécessairement des gens à se dire « Mais quel connard ce type, quel mégalo, etc. »
Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
C'est pas le problème. Écoute, on va avancer et je vais te poser la question que Sébastien a posée aux autres. Et je vais te la poser en rajoutant une chose. Il y a quelques temps, vous avez fait dans la cellule un podcast en vous interrogeant sur l'avenir du jeu de rôle.
Ouais.
Tous les invités qu'on a eus aujourd'hui, on leur a posé cette question. Qu'est-ce qu'ils voyaient dans l'avenir du jeu de rôle?
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils espéraient y voir, même si c'est de la prospective, même si ça va assez loin? Qu'est-ce que toi, tu veux voir aujourd'hui dans l'avenir du jeu de rôle par rapport à ce que tu pensais éventuellement à l'époque, si tu t'en souviens, du moment où vous avez fait ce podcast-là?
Alors, je me souviens plus de. Je crois que c'est Fabien qui était venu avec cette idée de podcast et du coup c'est surtout ces thèses qu'on avait entendues et défendues.
Alors parle-nous de ce que tu penses aujourd'hui et oublions ce podcast. Mettons-le de côté, les auditeurs pourront aller le réécouter si ça les intéresse.
Eh ben moi je pense ce que j'ai. Mais là-dessus j'ai jamais trop changé. Je pense que on est promis un grand avenir. Le jeu de rôle. En fait le jeu de rôle fait penser un peu à la philosophie. Dans la mesure où la philosophie c'est une matière un peu de niche, il y a très peu de philosophes tu vois purs sur cette planète, mais par contre il y a beaucoup de biologistes, il y a beaucoup de physiciens, il y a beaucoup de mathématiciens, il y a beaucoup de profs de français, de poètes, etc. Et à la base de tous ces gens, de ces biologistes, de ces physiciens, on trouve quoi? On trouve à l'origine des philosophes. Et ben moi je crois que c'est le destin du jeu de rôle que d'être un petit peu une espèce de secteur qui est fréquenté par très peu de personnes, mais quand on l'a fréquenté, ça nous forme pour ensuite appliquer à d'autres secteurs, le jeu vidéo, la littérature,
j'allais le dire,
des choses qu'on a apprises dans ce secteur-là.
J'allais dire que ce que tu décris, c'est pas l'avenir du jeu de rôle, c'est déjà son passé.
Mais c'est ça.
À l'origine d'énormément de sociétés de jeux vidéo, de développement de grands jeux, tu as des rôlistes.
C'est ça. Mais je pense que ça va continuer et que ça va aller au-delà. En fait, ce qui s'est passé pour le jeu de rôle, et ce qui a été malheureux, c'est qu'à un moment donné, c'était un peu mal vu de faire du jeu de rôle.
Absolument, ouais.
Mais c'était il y a longtemps. Vous rassurez-vous, aujourd'hui, ouais. C'est fini. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que les langues se délient. Et progressivement, on apprend que Varoufakis était créateur de jeux de rôle, de jeux de, enfin, game designer. Tiens donc, et comme par hasard, c'est un grand économiste. En tout cas, ça a été le premier ministre grec de l'économie. Et non, les langues se délient.
Tu peux dire un grand économiste, quoi qu'on en pense, parce qu'il est quand même. Il a enseigné à l'université, quand même.
Voilà, d'accord. Voilà, quoi qu'on en pense. Mais en fait, ce que je voudrais éviter, c'est qu'on pense que je crois que ces théories économiques sont
bonnes.
Voilà. Je veux dire, c'est quand même malgré tout quelqu'un qui et Vin Diesel par exemple, oui. qui commence à faire ses, enfin qui commence, ça fait longtemps qu'il a fait son coming out,
ouais.
Hein,
mais là il l'a montré,
qui commence à dire tiens t'es là toi encore, qui commence à dire j'ai fait du jeu de rôle, et ça m'intéresse m'intéresse, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire le jeu de rôle est une école, et moi je crois que c'est ça l'avenir du jeu de rôle. L'avenir du jeu de rôle, c'est d'être une école de pensée, une école de game design, un endroit où on apprend certaines choses. Je ne sais pas si c'est la meilleure école. Je ne dis pas que c'est la meilleure école possible. Si, en fait, je le pense. Hey, entre nous, je le pense un peu, hein, mais je ne le dis pas publiquement, mais je le pense. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure école possible. J'ai envie de croire que c'est la meilleure école possible, parce que j'en viens. Alors forcément, j'ai envie d'être le meilleur, c'est normal. Bon. Mais le truc, c'est que je pense que c'est une excellente école. En tout cas, c'est une école, et c'est ça son destin, et c'est ça son avenir. Et comme tu l'as dit, son avenir, c'est son passé, en fait. Il ne faut pas attendre du jeu de rôle qui soit énormément lu. Et un bon philosophe, aujourd'hui, en France, c'est 500 exemplaires vendus. Tiens donc, c'est la même chose que le jeu de rôle. Et je pense que son avenir, c'est de continuer comme ça. Continuons, rôlistes. Parce que nous gagnons, nous sommes en train de gagner, mais en infiltrant d'autres secteurs, en investissant d'autres secteurs, en inspirant d'autres secteurs. Notre avenir, c'est d'être des inspirants.
Eh bien, écoute, je vais... Et pas des inspirés ?
Ben, nous sommes... C'est un... Bon, écoute, entre nous, totalement entre nous. Là, on coupe les micros. Non, c'est simple. Et si on inspire, c'est qu'on est nous-mêmes inspirés et passionnés. Si on transmet des passions, c'est qu'on est passionné. Enfin, je vois, il n'y a personne qui peut transmettre des passions sans l'être, tu vois.
Petite anecdote. Sandra, qui fait le podcast avec nous, fait énormément de jeux de rôle pour les enfants. Elle anime d'ailleurs les ateliers enfants aux Utopiales tous les après-midi, là, depuis le début de la convention. Sandra fait jouer des enfants, des filleuls, des enfants de sa famille, globalement. Hein.
Ouais.
Notamment, un groupe d'enfants qu'elle a fait jouer à Cthulhu, justement.
Ouais.
La maîtresse de ses enfants a tellement adoré ce qu'elle a fait qu'elle s'est mise au jeu de rôle.
C'est génial. C'est génial. Et tu vois, c'est génial. Mais moi, j'ai des tas d'anecdotes à te raconter comme ça.
Bien sûr.
J'en ai des tas.
Dans mon entourage, c'est fou. J'en parle parce que j'en fais profiter aussi nos auditeurs,
dans
évidemment.
Dans mon entourage, c'est ouf le nombre de personnes qui... Parce qu'avant, on ne mettait pas ça dans le CV, créateur de jeux de rôle.
Non,
jamais.
Non.
Maintenant, par exemple, quand j'ai inscrit mon fils à l'école, j'ai mis écrivain, jeu de rôle. Parce que j'en suis fier. Et bah du coup, les professeurs de Sorène, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que c'est le jeu de rôle ? Ils s'intéressent, ils s'interrogent. On en a parlé avec des parents d'élèves, ça les a intéressés, ça les a intrigués. Résultat, il y en a qui m'ont acheté mes bouquins, etc. Et en fait, c'est ça, je crois, on est sur le bon chemin. Moi, toutes les histoires passéistes de le jeu de rôle, c'est mort, etc. Non, non, et encore
non. Ah non, ça revit. Là.
L'avenir est beau, là vraiment, on est... moi, je suis enthousiaste,
eh ben,
vraiment.
Écoute, c'est formidable. Est-ce que tu as un dernier mot à nous transmettre ?
Si j'avais un dernier truc à dire, ce serait soyez authentique.
Ouais.
Et même dans vos erreurs, il vaut mieux commettre des erreurs jusqu'au bout, il vaut mieux se tromper jusqu'au bout, et quitte à ce que ça fasse mal, mais au moins qu'on ait appris des choses, plutôt que de rester tiède toute sa vie et ne rien apprendre. Moi, tant pis, je suis chaud, je suis passionné, ça énerve des gens, ça égaye la vie d'autres, je pense, j'espère. Je me plante sur plein de trucs, mais je suis content de me planter et je suis toujours content d'apprendre. Et commencer à vieillir, c'est cesser d'apprendre, et ça, jamais. Jamais je ne vieillirai. Jamais.
Formidable. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marc.
À plus.